Bien le bonjour, bon matin tout le monde. Nous sommes vendredi matin, le 25 mai. Vous êtes à l'émission Les Voix avec moi, en studio. Fidèle collaboratrice, Francine Forget. Bonjour.
Bonjour, chère Hélène, vous allez bien?
Absolument.
Oui, je vois que les effets des rayons du soleil, même un peu cachés, vous font un grand bien.
Ah oh oui, moi, c'est ma nature, ça.
Oui.
Oh, hein? Merci beaucoup. Et malheureusement, ce matin, Catherine Emmanuelle Brunet n'est pas présente. On la salue. Elle sera présente le vendredi prochain. À la régie, mon cher Mathieu qui revient de voyage. Bonjour Mathieu.
Bon matin.
Oh, voilà. Bien contente de te revoir.
Je suis bien contente d'être de retour.
Merci. Alors, nous allons vous présenter nos sujets ce matin, brièvement. Francine.
Oh, une multitude de choses dont j'aimerais vous parler. Malheureusement, vous allez me dire que je suis limitée par le temps. Alors, je vais donner la... je vais donner préséance aux femmes. Des femmes numériques, d'abord, et ensuite, des femmes de l'âge de pierre.
Oh là, on va faire un grand saut dans le temps.
Les deux extrêmes.
Eh oui, ben, moi, ben, je vais poursuivre là-dedans. Moi, je vais vous parler d'une seule fille du roi.
Ah, ben, voilà. C'est entre les deux, finalement.
Absolument. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et d'autres textes comme je vais vous parler de Hommage à la sensualité chez les aînés et La princesse au petit pois. Nous verrons ça tout à l'heure. Alors voilà, nous vous revenons dans un court moment. Nous allons, nous voici de retour, nous, j'ai oublié de me présenter, c'est Hélène Bédard, tout à l'heure j'ai présenté tout le monde, désolé. Alors voilà, nous allons débuter avec Francine. À
vous. Merci Hélène. Alors je vais commencer par les femmes de l'ère numérique, comme ça, ça va être réglé, puis on fera ensuite un saut dans l'histoire, mais back to the future. Donc, dans la presse plus du 20 mai 2018, on parlait de l'ère des êtres numériques. Difficile d'inventer un scénario plus actuel. En avril, Miquela Souza, connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Lil Miquela, a brièvement perdu le contrôle de son compte Instagram. Ce piratage n'est pas passé inaperçu. Plus de 1 million de personnes suivent cette jeune femme, apparemment âgée de 19 ans, qui pose en des vêtements griffés et défend des idées progressistes. C'est une rivale du monde virtuel. Bermuda, adepte de la droite conservatrice, qui était derrière le forfait. Que voulait-elle? Que Lil Miquela dise la vérité. Ce qu'elle a obtenu, Miquela Souza a beau avoir 1 million d'amis sur Instagram, publier une chanson pop et donner des entrevues à quelques médias d'envergure, ce n'est pas une vraie personne. Bermuda non plus, d'ailleurs. Ces deux jeunes femmes n'existent que sur l'Internet. Ce sont des robots. Ou, si vous préférez, des êtres numériques. Ce genre de personnage brouille la ligne entre ce qui est vrai et ce qui relève de la fiction, dit Ian Condry, qui est un anthropologue de la culture au MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Miquela et Bermuda ne sont pas les seuls. Gorillaz, groupe virtuel formé par un bédéiste et un autre collaborateur, fait carrière depuis 20 ans. Au cours de la dernière décennie, Hatsune Miku, une chanteuse japonaise issue d'un logiciel de composition musicale, a donné des spectacles sous la forme d'une projection. Et elle a fait sale comble en Asie, comme aux États-Unis. Ce qui mêle les cartes dans ce cas-ci, c'est que personne ne sait encore dans quel but Miquela a été créée. Selon toute vraisemblance, elle a été fabriquée par une firme de robotique et d'intelligence artificielle de Los Angeles, appelée Broad. Une entreprise rivale dont l'existence avait été mise en doute a d'abord été considérée comme la créatrice de Bermuda. Il semble maintenant acquis que les deux personnalités virtuelles aurait été créé par Broad et que l'acte de piratage était un coup monté. On ne connaît pas tous les tenants et aboutissants de cette histoire, analyse Catherine Dorion, qui est une stratège numérique à l'agence de publicité LG2. Elle perçoit derrière tout ça l'envie de faire vivre une expérience plus poussée sur les médias sociaux, espace à la fois public et privé, où les limites entre le vrai et le faux sont un peu floues, puisque chacun montre une version plus ou moins mise en scène de sa vie. Là, c'est juste une histoire. Mais il y a peut-être eu un manque de transparence envers les utilisateurs, juge-t-elle. On ne sait toujours pas dans quel but ce personnage a été créé. Est-ce pour faire une satire? Pour faire un documentaire? Si cette opération fait partie d'un projet artistique encore mystérieux, c'est une chose. Si elle visait plutôt à augmenter le rayonnement et ultimement la valeur marchande de l'île Miquela, c'en est une autre, selon la stratège en publicité. Sur les réseaux sociaux, on raconte une histoire, mais l'important, c'est de ne pas raconter des salades, poursuit Catherine Dorion. Certains voient en l'île Miquela et en Bermuda une nouvelle forme d'influenceurs sociaux. Si des personnages fictifs ont déjà incarné des marques, pensons au géant vert ou à Monsieur Net, qu'est-ce qui empêche un être virtuel de devenir mannequin, porte-parole publicitaire ou même d'appuyer une cause? Le magazine Wired, spécialisé en technologie, prédit d'ailleurs que ces influenceurs créés par ordinateur vont bientôt envahir nos réseaux sociaux. Tout le monde peut devenir un influenceur social à une échelle différente, estime Renato Obner-Barcelos, qui est professeur à l'École des sciences de gestion de l'Université du Québec à Montréal. Ce qui détermine si une personne est un vrai influenceur social, c'est toutefois sa visibilité, sa crédibilité et, au bout du compte, l'impact de ses recommandations sur le consommateur. Avoir plus de 1 million d'amis sur Instagram constitue un atout non négligeable. L'île Miquela n'a encore jamais monnayé sa présence sur les réseaux sociaux, semble-t-il. En entrevue avec Business of Fashion, la jeune femme, ou plutôt la personne qui répond à sa place, a toutefois manifesté son intention de faire de plus en plus de mannequinat et évoqué des campagnes pour Burberry et Versace, pour un salaire qui ne sera pas virtuel. Renato Hübner-Barcelos croit que dans les sphères du divertissement et de la mode, les influenceurs numériques pourraient avoir un impact. Il se demande par contre à quel point les êtres humains voudront ou pourront s'identifier à des personnalités virtuelles et suivre leurs recommandations. On peut s'attacher à un personnage de roman qu'on sait fictif, alors pourquoi pas, fait valoir Ian Condry, qui a aussi vu Itsanu Miku soulever les foules lorsqu'elle montait sur scène, montait entre guillemets évidemment. L'attrait exercé par des personnalités virtuelles comme l'île Miquela est, selon l'anthropologue du MIT, le symbole d'une culture où on s'attache à des gens célèbres qu'on ne connaît pas autrement qu'à travers les médias. Or, l'image publique de ces célébrités est aussi une construction. Ça a du sens que des personnages fictifs s'insèrent dans cette culture de célébrité et de marque, juge-t-il. L'une des raisons pour lesquelles la télé-réalité fonctionne, c'est qu'elle donne l'illusion d'avoir accès à la vie des gens, ajoute Ian Condry. C'est un peu la même chose avec ces personnages. Même s'ils sont fictifs, il y a cette illusion d'intimité, de dévoilement d'éléments de la vie personnelle que, normalement, seuls les proches sauraient. Pour moi, il n'est pas seulement question d'une dynamique réelle fiction, c'est une manière d'être en contact avec les autres. Catherine Dorion et Renato Hübner-Barcelos insistent néanmoins sur une valeur qui leur semble essentielle en publicité, l'authenticité. Les marques se demandent comment les gens vont se sentir quand ils vont le découvrir ou s'ils savent que l'influenceur qui crée le bouche-à-oreille positif est une personne qui n'existe pas, résume le professeur de l'UQAM. Catherine Dorion convient qu'il y a une part de jeu dans tout ça, mais qu'il ne faut pas induire les gens en erreur. Alors, dans la presse plus du 21 mai 2018, des influenceuses artificielles, donc l'ère des êtres numériques.
Nous revoilà en studio et Hélène Bédard au micro. Moi, je vais faire un petit bond en arrière de l'ère numérique de Francine. Je vais faire un petit bond et je vais vous parler d'une fille du roi qui a eu, et à cause d'elle, 1 million de descendants. C'est pas rien. C'est pas rien quand même. C'est un texte de Isabelle Porter qui est paru dans Le Devoir. C'est le 7 mai 2018. La contribution des filles du roi au pool génétique des Québécois s'élève à 9 % selon une recherche qui sera présentée Qui a été présentée là, au congrès de l'ACFAS du Saguenay. Parmi ces filles du roi, celle qui a eu le plus de descendants, eh bien, allez voir, n'a eu aucun enfant en Nouvelle-France. Fort étonnant. Les recherches sont fantastiques des fois. Alors, nous en parlons. Veuve, Anne Lemaître a quitté Rouen pour la Nouvelle-France avec son fils Nicolas Roy et ses deux petits-fils. Une fois embarquée, elle n'a pas eu d'autres enfants, mais les chercheurs lui ont trouvé plus d'un million de descendants. Son impressionnante descendance est due à un seul enfant, contrairement à d'autres femmes qui ont pu avoir une dizaine d'enfants et dont les lignées se sont éteintes, note Sophie Desportes, qui a étudié le sujet dans le cadre de sa maîtrise à l'Université du Québec à Chicoutimi. La jeune femme fait partie de l'équipe de recherche du fichier Balzac, une immense banque de données démographiques créée dans les années 1970 par le sociologue Gérard Bouchard. Grâce à Balzac, les Québécois sont l'une des populations les mieux caractérisées à l'échelle mondiale, note le directeur du projet, M. Simon Girard. Depuis 45 ans, on y a compilé pas moins de 3 millions d'actes de mariage de toutes les paroisses du Québec. On a des gens qui prennent des photos des registres paroissiaux, ils lisent les pattes de mouche des curés, retranscrivent chacun des actes de mariage à l'informatique, puis ceux-ci sont intégrés à une base de données, à une grande base de données. Aujourd'hui, on a pratiquement 90 % des mariages qui ont eu lieu sur le territoire québécois dans une paroisse catholique. Ainsi, pour faire sa recherche sur les filles du roi, Sophie Desportes a utilisé une banque de données de 60 000 généalogies du 20e siècle en la croisant avec les lignées de 727 filles du roi. À partir de ce corpus généalogique, là, on a pu retracer les ancêtres et identifier les fondateurs immigrants et donc les filles du roi. C'est à partir de ces analyses-là qu'on a pu estimer la contribution génétique totale des filles du roi au pool génétique des Québécois à 9 %. Donc, ce pool nous renvoie à l'ensemble des gènes portés par les individus d'une population à partir des immigrants de cette population jusqu'aux descendants d'aujourd'hui. La recherche, en outre, a révélé que certaines filles du roi se démarquent par leur nombre de descendants et le nombre de généalogies auxquelles elles sont rattachées. Une dizaine de femmes sont dans plus de 30 % de notre corpus contemporain, signale toujours Sophie Desportes. C'est toujours impressionnant de se rendre compte qu'un petit groupe de femmes a contribué à une telle proportion. Elles s'appellent, et là je vous donne des noms, Catherine Fièvre, Martine Premier, Louise Gargotin, René Rivière, André Remondière. Des noms de familles qui peuvent sembler colorés, mais seraient devenus tout aussi communs que les Tremblay, les Côté ou les Gagnon si la Nouvelle-France avait décidé de donner aux enfants le nom de leur mère. Si ça avait été le cas, le nom de famille le plus courant aujourd'hui serait Langlois et non Tremblay. Il y a en outre davantage de Gargotin que de Bouchard, et plus de Riton que de Morin. Au-delà de leur intérêt historique, ces recherches recèlent un intérêt dans le domaine de la génétique de la santé, note le professeur de biologie Simon Girard. On sait que certaines maladies viennent d'une fille du roi. Ça nous permet de voir d'où viennent les mutations qui les a introduites en terre de Nouvelle-France. Mieux comprendre la dynamique de dispersion de ces maladies-là, ça va aussi nous aider à comprendre comment intervenir et comment les soigner. De là, les campagnes de dépistage de certaines maladies pourraient être mieux ciblées, poursuit-il. On va être capable de faire des offres de tests de porteurs un peu plus précises pour chacune des régions. Le colloque sur le fichier Balzac s'étale sur 2 jours, donc au Saguenay, et compte plus d'une douzaine de présentations, dont l'une a traité des migrations bretonnes à l'époque, à l'origine de l'effet fondateur de la fibrose kystique au Québec, des représentants de Génome Québec et de la plateforme de recherche publique Cartagène doivent aussi y prendre part. L'événement se déroule donc au Saguenay et c'est le congrès de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences qui a eu lieu toute la semaine dernière à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je vous rappelle donc ce texte fort intéressant de Isabelle Porter, paru dans Le Devoir le 7 mai 2018.
Je manque du sommeil. Je fais...
Leur chanson « Je suis pas une femme à marier ». Ça, c'est clair?
C'était clair, c'était bien entendu, en tout cas. Merci, Mathieu. Nous allons poursuivre avec Francine Forget.
Oui, avec des femmes qui ne sont pas juste à marier, justement, contrairement à ce qu'on a pu penser pendant longtemps. Alors, c'est un article qui s'intitule « Âge de pierre, âge des femmes », une entrevue de Sarah Champagne, publiée dans Québec Science de juin 2018, avec l'historienne Claudine Cohen. Qui étaient réellement nos ancêtres au cours de la préhistoire? Chose certaine, l'homme préhistorique était aussi une femme, dit Madame Cohen. Apprendre ou à protéger, les femmes préhistoriques restent encore aujourd'hui enfermées dans ces représentations simplistes. Rien de plus faux, rétorque l'historienne des sciences Claudine Cohen. Les femmes ont joué une multitude de rôles actifs et importants que les progrès récents en paléontologie et en archéologie historique contribuent à révéler. Également philosophe et directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, Claudine Cohen fait la synthèse entre la science et l'histoire des idées. Une réflexion qui force à repenser la division des rôles depuis les temps immémoriaux. Étant donné que l'entrevue est assez longue, je vais vous la lire en deux parties, alors une tout de suite et un peu plus tard en deuxième partie d'émission. Ah, donc, la question de Québec Science, quelles sont les idées reçues au sujet des femmes préhistoriques? Madame Cohen, d'abord, il y a cette vision des femmes exclusivement confinées au foyer, qui s'occupent d'un grand nombre d'enfants et attendent que les hommes rapportent le produit de la chasse pour se nourrir. Une autre vision qui perdure est celle des femmes comme objet sexuel. Elles sont représentées dépoitraillées et violées dans les films et dans toute l'iconographie de la préhistoire produite depuis le 19e siècle. À quoi ressemblait réellement leur quotidien? Les femmes ne restaient pas sédentaires au fond de la caverne entourées d'enfants. Elles pratiquaient probablement des activités corollaires de la chasse, cette dernière n'étant pas exclusivement masculine. Les femmes pouvaient y participer, peut-être pas pour mettre à mort les animaux, mais pour les rabattre et pour amener le gibier. Le rôle de la cueillette était aussi important. Les femmes contribuaient pour une très grande part à l'alimentation du groupe avec la collecte des végétaux ou des coquillages. Il faut rappeler que la préhistoire dure 7 millions d'années. Il y a donc plusieurs types de femmes au cours de cette période. des espèces dominées différentes ont existé. Les Australopithèques, les Néandertaliens, les Homo sapiens et d'autres. Plusieurs modes de vie ont marqué l'époque, depuis celui des chasseurs-cueilleurs nomades du Paléolithique, qui se termine il y a 12 000 ans, jusqu'à celui du Néolithique avec le début de l'agriculture. Les familles étaient-elles nombreuses? Il est impossible d'être totalement affirmatif dans ces recherches. Il n'y a pas de certitude car les indices sont rares et les vestiges fragmentaires. Mais les recherches récentes offrent des indices qui invalident la vision des femmes préhistoriques avec une progéniture très nombreuse. Des ethnologues ont démontré que les femmes vivant dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles au Congo et en Nouvelle-Guinée n'ont pas beaucoup d'enfants à la fois, car elles participent à la mobilité du groupe, un groupe nomade. Sans dire que ces sociétés, je m'excuse, sont préhistoriques, puisqu'évidemment ce n'est pas du tout le cas, on peut considérer qu'elles ont un mode de vie qui ressemble à celui des chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. On peut donc présumer que, comme les femmes nomades d'aujourd'hui, celles de la préhistoire avaient recours à des procédures de régulation des naissances pour ne pas avoir plusieurs enfants en bas âge en même temps, comme l'allaitement prolongé qui retarde une éventuelle grossesse après une naissance. Alors, je poursuis avec une question de Québec Science. Que sait-on des autres rôles des femmes dans cette société? En étant plus loin dans les hypothèses, on peut avancer que le travail des fibres était celui des femmes. Elles connaissaient les différents végétaux pour en tirer des remèdes et les mettaient aussi à profit pour le tissage des vêtements et le tressage des cordes ainsi que des paniers. Pour tout le groupe, c'était une activité importante, tant pour la cueillette, le portage des enfants, mais également pour l'habillement. On les voit à moitié dévêtues avec des pagnes dans la plupart des représentations du 19e siècle, mais elles s'habillaient probablement de matière très soigneuse et savaient se vêtir chaudement au besoin. Nous aurions donc nourri à tort une vision sexiste de la préhistoire. Notre regard sur le passé est très coloré par notre vision du présent. C'est aussi parce que la science de la préhistoire est née il y a seulement 150 ans, c'est-à-dire à l'époque victorienne, alors que les femmes n'avaient aucun droit au Royaume-Uni ou en France. Et il faut reconnaître qu'on n'a pas eu beaucoup d'éléments scientifiques, de vestiges pour concevoir la situation des femmes au cours de la préhistoire. Ces éléments étaient encore plus rares il y a 150 ans. Y a-t-il de nouveaux indices qui déconstruisent les idées reçues concernant les femmes préhistoriques? On a dit très longtemps que la différence des sexes était invisible, qu'on ne pouvait déterminer, par exemple, qui avait fabriqué un silex. Il reste que tailler le silex a longtemps été attribué aux hommes, puisqu'on pensait que c'était une question de force pure. L'outil était une sorte de privilège de l'homme. Depuis quelques décennies, on fait toutefois beaucoup d'expérimentations. Dans le cadre de ces expériences, des femmes ont fabriqué des objets en silex et elles n'ont eu aucun mal à le faire. Au contraire, on s'est aperçu que ce travail demandait de la finesse, de l'adresse et de la réflexion. Alors, nous poursuivons cette entrevue avec Mme Cohen dans Québec Science de juin 2018, un peu plus tard au cours de l'émission.
Eh bien, moi, bonjour, Hélène Bédard, je reviens. Je vais donc vous parler d'un texte de l'excellente Francine Pelletier du Devoir qui traite de la princesse au petit pois. Nous y voilà, c'est un texte qui est paru avant-hier. Alors, la famille royale a rarement été aussi épiée, applaudie, admirée que depuis qu'elle compte dans ses rangs une princesse sortie tout droit d'un conte de Disney, cette splendeur de femme métissée, fière de ses origines comme d'ailleurs de son féminisme. Meghan Markle, la désormais duchesse de Sussex, ça nous change du temps où les princesses se couchaient sur un petit pois afin de prouver leur pedigree, leur pot de lait, leur talent inné à détecter le moindre corps étranger, des femmes à conserver sous cloche de verre, de préférence ou mieux, mais dans un donjon. Les temps changent et nonobstant les chapeaux d'Élisabeth II, la monarchie aussi. Et puis disons-le, tant qu'épouser le protocole, la porcelaine anglaise et les bonnes œuvres, pour toujours, aussi bien le faire pendu au bras du bad boy of the bunch, le prince Harry. Il a dit ceci, « J'ai tellement hâte de passer le reste de mes jours avec toi. » Il lui aurait déclaré cela, le coquin, le soir de ses noces. Comment résister à une telle histoire d'amour qui a toutes les allures d'un véritable conte de fées? La monarchie ne sert plus à grand-chose de nos jours si ce n'est à fournir de belles parades ou de formidables histoires de couple. Le prince Charles et son ineffable Camilla, c'était pas mal non plus. L'idée d'une certaine noblesse également, pas celle reliée à l'aristocratie, encore moins à l'impérialisme, mais plutôt celle qui se rattache à la notion de dignité, de beaux sentiments comme preuve indubitable d'une caste à part. Certains possèdent ce comportement princier d'instinct, Barack Obama par exemple, alors que d'autres sont relégués au statut de voyous toute leur vie. Et je cite Donald Trump. Tout le monde rêve de se voir beau et fier et heureux comme Meghan et Harry. Mais bon, quand sera-t-il dans 5, 10 ou 20 ans, quand les caméras et les touristes ne seront plus au rendez-vous de la vie conjugale, plus tout aussi palpitante? Harry marchera-t-il avec le dos courbé, 2 mètres devant sa douche, de sa douche, comme le fait immanquablement la reine devant le prince Philippe? Protocole oblige. Le dos courbé, c'est sèche long. L'effusion n'étant pas très prisée au sein de la famille royale, pas plus d'ailleurs que de manger de l'ail, dit-on. L'ironie en ce qui concerne Meghan, c'est que le vent d'ouverture que sa présence insuffle à la royauté comporte pour elle un coût terriblement élevé. En forçant la monarchie britannique à moins de snobisme et d'exclusion, Meghan, comme sa belle-sœur Kate Middleton, femme de William et simple roturière elle aussi, elle se retrouve par le fait même avec beaucoup moins de liberté, d'autonomie et d'indépendance à elle. L'exact contraire de ce que veut le féministe, faut-il souligner. Petite anecdote à ce propos. Dans les années 80, le souhait féminin par excellence, celui murmuré pour la première fois par Blanche-Neige, était « Un jour, mon prince viendra », a été reformulé par le mouvement des femmes pour dire « Mon prince, un jour, viendra ». Alors, souhaitons-lui donc bonne chance, souhaitons-lui, malgré les courbettes et les formules obligées, malgré la cage dorée, de toujours croire en la liberté. Un texte donc de Francine Pelletier. Paru dans Le Devoir, La princesse au petit pois, paru avant-hier. Nous allons donc vous quitter pour un court moment, le temps d'une pause, et restez avec nous pour... nous allons reprendre le deuxième volet de les magazines, les Voix de service magazines.
Messieurs, mesdames, on va briser des cœurs. Voici le cardiogramme de Roger Gontager. J'ai un dilemme sérieux, je vous le soumets sans détour. Qu'est-ce que ça donne d'être heureux? Stéphane en amour. L'argent, le job, le sport, puis toutes ces belles affaires sont dans la valise du char. Le char est en fourrière. Y'en a même un jour, dis-toi qu'est-ce que tu veux. De l'amour, les tons avec des œufs. La femme me cherche partout, police court après bruit, je pointe, vont bien un jour finir par se marier. Ben bien content pour eux, le souhait des bons amants, ils vécurent peureux, eurent de nombreux paiements. La haute fidélité, c'est pour les systèmes de son, pour les clients de la baie, cocu dans le salon. Pi, 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 pis si mouille mouillera, pis si neige on pelletera, holla pour la vida. Qu'est-ce que tu viens voler? Je la dévoncé avec la blonde et non baissé dans pas ma peau. Ça, c'est le bonheur. C'est l'orage gigantateur. Moi, j'ai un idéal, c'est de rater ma vie. Je sais pas si c'est normal, j'ai pas encore réussi. Un problème de poisson, une petite nouvelle pour vous. D'avoir ou en prison, j'en ai trouvé partout. Tout le long de ma route, j'ai fait des erreurs. C'était plus fort que tout, je les ai appris par cœur. Ça donne de l'émotion, faut que je n'ai jamais assez. Moi, où ce que le vent m'emporte, je t'apprendrai à laisser. Les jaloux qui me font chier me le pardonnent tout de suite. Pour pas les oublier, j'ai toute la liste ici. Dans mon coffre à tickets, ce pinot et pégate, tout bien classé par dette. M'en ai marché une cravate. J'arrive à la banque, bonjour, je vais vous vendre mes dettes. Je reviens heureux comme tout, comme petit cochon dans la boîte. Pi, 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 si mouille mouillera. Pi, si les gens pèlent la porra vida. Qu'est-ce que tu viens voler? Ça l'a défoncé avec la blonde et non, pis c'est dans pas de ma peau. Ça, c'est le bonheur. Selon Roger Gontager. Moi, je me mêle pas de politique, des vers de terre shiny. Pour ma santé publique, je m'en tape un par année. juste pour les funérailles, les bagnoles flambant de voir un ministre qui broille. C'est sûr que ça pète le papa. Parlant de religion, la mec et puis l'islam, nous autres dans notre région, c'est la mec et puis la slam. Comme dit dans sa caverne, le gourou consacré, c'est l'idée d'où l'éden, fuck of all but six. Qu'est-ce qu'il disait pour ça? Le pire, c'est quand que le pire se met à revirer, il y a des choses bien pires qui sont jamais arrivées. À trop penser à l'avenir, on en oublie le présent, ça fait qu'à l'avenir, pensez-y plus souvent. Là, je m'en vais chez Denis, son beau futon en fond, comme on dit dans le showbiz, il gâche au Mosgoron. Pi, 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 pis si mouillé mouillera, pis si neige on pèlera, holla pour la vida. Qu'est-ce de pierre volée, je la défonce, avec la blonde, ben non, pis c'est donc pas de ma faute, ça c'est le bonheur, c'est l'orage gigantateur.
Richard Desjardins et Richard Guntaker.
Excellent. Merci beaucoup, Mathieu. Nous sommes de retour. Hélène Bédard au micro. Et voici Francine Forget qui va poursuivre avec son excellent texte sur l'âge de pierre.
Il ne faut pas penser la condition féminine comme relevant de la nature, Hélène, mais de la culture et du social. C'est vrai aujourd'hui, comme dans la préhistoire, dit Claudine Cohen. Alors, c'est l'historienne, justement, qui s'est penchée sur cette période des femmes et de l'âge de pierre, et dont Sarah R. Champagne rapporte les propos dans Québec Science de juin 2018. Quant aux ossements, peut-on leur attribuer un sexe avec certitude, pose comme question Mme Champagne. La réponse de Mme Cohen, certains détails de la conformation du bassin donnent des indices qui restent fragiles cependant. On regarde l'écartement des os pelviens et l'élargissement du bassin, si tant est que l'on puisse avoir cette partie du squelette. On s'est longtemps basé aussi sur la gracilité des os, supposant une stature plus faible chez les femmes, ce qui est aujourd'hui remis en question. On avait par exemple baptisé un squelette inhumé des grottes de Grimaldi « l'homme de menton » à cause de sa stature et de l'opulence de la sépulture. Des examens récents du bassin et du squelette ont permis de découvrir que c'était plutôt les restes d'une femme, malgré leur robustesse. Le dimorphisme sexuel, la différence d'aspect entre le mâle et la femelle, était peu accentué, ou en tout cas moins accentué qu'aujourd'hui, chez les humains du paléolithique supérieur. Il existe aussi des tests, même s'ils ne sont pas souvent possibles. On a par exemple réussi à extraire l'ADN nucléaire des ossements de l'hominidé de Denisova, découvert en Russie en 2010, et à le séquencer comme s'il ne s'agissait que d'un bout de phalange. On a établi que ce vestige était celui d'une petite fille. Pourtant, on continue de l'appeler l'homme de Denisova. Qu'en est-il de Lucie, le fossile le plus célèbre? Était-ce bien une femme? Il y a eu des débats sur les restes de Lucie, car leur analyse reste équivoque. Ils sont très morcelés et en plus, on avait très peu de points de comparaison avec d'autres squelettes de son espèce quand on l'a trouvé en 1974. Au-delà de toutes les discussions sur l'attribution du sexe féminin à Lucie, elle a incarné une sorte d'ancêtre, une sorte de grand-mère de l'humanité, même si on sait aujourd'hui qu'il y a d'autres fossiles beaucoup plus anciens. Je pense que c'était un grand tournant dans la vision de la différence des sexes dans la préhistoire. On a enfin reconnu qu'une femme pouvait exister et présenter un intérêt dans l'étude de cette période. Madame Cohen, vous avez analysé l'art de la préhistoire. Qu'avez-vous appris? Attention, l'art existe seulement à la fin du paléolithique supérieur, à partir d'il y a 40 000 ans. On trouve d'abord une abondance de figures féminines, des Vénus paléolithiques comme celle de Grimaldi. Certaines étaient des amulettes qui ont pu être fabriquées par des femmes pour leur propre usage, par exemple pour protéger une grossesse. Des préhistoriens ont aussi émis des observations sur l'art pariétal, en particulier Dean Snow, qui a étudié les mains sur les parois ornées de grottes en France et en Espagne. On trouve ce genre de mains partout à toutes les époques du paléolithique supérieur. Snow a remarqué que beaucoup des mains de l'art paléolithique sont féminines grâce à une analyse par logiciel qui évalue les proportions. Déjà, cela prouve que les femmes n'étaient pas exclues de ce qui était probablement des rituels ou des fêtes. Elles y avaient une place. D'autre part, certains panneaux, comme celui de la grotte de Percmel en France, sont entourés de mains de femmes. C'était peut-être une signature. L'hypothèse n'est pas si extravagante. Tout ça vous amène-t-il à repenser la question des rôles sociaux? Il ne faut pas penser la condition féminine comme relevant de la nature, mais de la culture et du social. C'est vrai aujourd'hui, comme dans la préhistoire. Alors, une entrevue fascinante avec Claudine Cohen dans Québec Science, juin 2018.
Voilà, je vais vous... Hélène Bédard au micro. Voilà, je vais poursuivre avec un très court texte. C'est juste comme un photoflash qui s'intitule ainsi. Vraiment pas facile, la vie d'une femme, après toutes les lectures que nous venons de faire. Il faut... Et voici, c'est un texte qui est paru, qui est tiré du livre qui s'intitule « Fuck les régimes » de Chloé Hollings. Voici le texte. Il faut être unique, mais entrer dans une case toute faite. Entrer dans une case, mais rester original. Être original, mais pas marginal. Soigner son apparence, sans être un objet sexuel. Séduire les hommes en restant discrète. Ne pas castrer, ne pas soumettre. Être drôle, mais pas un clown. Être maquillé, mais pas tarte. Soft, mais sophistiqué. Naturel, mais demeurer sexy. Être mature, mais rester jeune. Rester jeune, mais pas gamine. Être mince, mais avec des seins. Être au fourneau et au régime en même temps. Bonne vivante, mais affamée. Avoir du caractère. Ah, attention, là, c'est trop. Vous devenez hystéro. Ne pas vouloir fonder une famille à tout prix, mais en fonder une quand même. Travailler 40 heures semaine, mais préparer des petits plats bio maison. Être une bonne mère, mais ne pas se perdre. Se perdre, c'est mal, mais être une mauvaise mère aussi. 20 minutes par jour de yoga, mais toujours, toujours garder contrôle. C'est sûr, ça laisse pas beaucoup de place pour évolutionner le monde. C'était un texte, juste un court extrait tiré du livre « Fuck les régimes » de Chloé Hollings. Et voilà, nous poursuivons avec Francine Forget.
Vous savez, Hélène, comment Québec Science est ma revue chouchou et certains de ses chroniqueurs... aussi des chouchous. Je vais vous lire la dernière chronique de Serge Bouchard, Le mammouth laineux, dans la revue Québec Science. Ça s'intitule Le dernier voyage. Quelque part dans ma louisaine, dans ma lointaine jeunesse, je me suis mise à rouler, à marcher, à voler. Et j'ai vu l'immensité de l'Amérique, la fatigue de l'Europe, le courage de la Russie, les montagnes de Tbilissi en Géorgie, le sable rouge de l'Afrique du Nord, l'église Sainte-Sophie en Turquie, la pierreuse Yougoslavie, la bouette de l'Ukraine. J'ai découvert la blancheur de l'Espagne, la douceur de l'Italie, le liège du Portugal, le tramway de San Francisco, le palmier de Los Angeles, avant de me perdre dans les brumes de l'Islande, les pins gris de la Finlande et puis bien sûr, les lumières du Nord. Avec mon fils de 12 ans, nous avons roulé de Montréal à Albuquerque et de San Diego à Montréal, en passant par le Wyoming. Cela ne m'a pas suffi. J'ai puisé la route entre Montréal et Anchorage, en Alaska, toujours avec mon fils, comme si de rien n'était. Puis, d'autoroute en Interstates, j'ai voyagé dans tous les États américains, hormis le Tennessee. J'ai roulé dans toutes les provinces du Canada, dans leur nord, dans leur sud. Autant de villages, de forêts, de marécages. Le voyage cessa d'être un événement, une parenthèse, une sortie. Il devint simplement ma vie. Ce furent des routes de routine, des cauchemars d'avion, des plongées dans le noir, des passages et repassages devant un paysage devenu familier, un arbre dans la plaine, une maison abandonnée. Je suis allé 1000 fois sur la côte nord, au-delà de la limite des Tim Hortons. J'ai volé sur les ailes argentées des DC-3 des ailes du nord, jusqu'aux marges du Labrador, oui, aux marges du Labrador. Et puis, le Boeing bleu de Nordair m'a mené à Kujwak. Il atterrissait sur des pistes de gravier à la baie James. Et cet autre Boeing brun et blanc de la compagnie Polar Bear qui s'envolait vers Yellowknife dans les territoires du Nord-Ouest et Whitehorse au Yukon. Des vols souvent costauds, brouillard, retard, grosses turbulences, vent extrême, tempête de neige. Dans ma tête, je traverse le parc de la Vérendrye pour une centième fois, une image de renard. Je vois venir Val-d'Or, ma bien-aimée Abitibi. J'ai vu naître des routes à travers des forêts ravagées, de grandes distances de gravier finalement asphaltées. Je médite dans la vallée de la Matabetia, Amqui. Je bataille sur l'ancien boulevard Talbot à Chicoutimi. Je m'évade vers Chibougamau, Mistissini et la route du Nord vers Nemisco. Que dire des soirs de novembre et des nuits de décembre sur les routes glacées de l'Acadie ou dans la solitude de l'Ontario entre Kapuskasing et Chapleau? J'ai parcouru la route 111 dans le nord de l'Ontario à plusieurs reprises, sous le soleil, à travers les mouches noires ou dans des blizzards cruels. Les connaisseurs apprécieront. Les frères Mercure, originaires de Québec, tenaient un saloon sur la place centrale de Santa Fe en 1840. C'est devant leur enseigne que François-Xavier Aubry écoulait à grand profit la marchandise qu'il convoyait à partir de Saint-Louis jusque-là, le long d'un trajet qui allait devenir mythique, la future route 66, mais qui était alors la routine aussi familière que dangereuse des voyageurs commerçants du Missouri. C'est dans le saloon des Mercures que le même Aubry fut assassiné par un Américain à la suite d'une dispute d'orgueilleux, comme on en voyait si souvent dans le Far West. L'un des frères Mercure connut lui aussi un destin tragique. Responsable des affaires indiennes dans les territoires du Nouveau-Mexique, il voyageait beaucoup. Pour une raison inconnue, il fut frappé de folie, s'enfonçant à pied dans le désert, tout nu, essayant d'échapper à des monstres dans sa tête. Évidemment, cette course lui fut fatale. On le retrouva mort et déshydraté sur la piste. La vie des plus grands voyageurs finit toujours par s'arrêter quelque part. Le terminus ultime est là qui nous attend. L'amplitude de mes interminables allers-retours entre Montréal et l'Aquapelle, entre Saint-Quentin et Bâton-Rouge, entre Sainte-Foy et Santa Fe, ne peut plus se répéter. Je dois jeter l'ancre à bon port, descendre du navire une dernière fois. Encore heureux que je sois toujours en vie, à peu près en un seul morceau. J'aurais pu devenir fou dans une tempête, lutter contre un gros orignal noir ou emboutir un poteau, un simple poteau. J'aurais pu faire un face-à-face avec un gros camion de bio conduit par un algonquin essayant d'éviter un ours. Et me voilà assigné à résidence, loin de mes terrains, refaisant dans ma tête un à un les sentiers de ma vie. Cette chronique est ma dernière, c'est ma fierté d'en avoir tant écrite dans la revue Québec Science depuis un si grand nombre d'années. Mais à partir du moment où je ne voyage plus, je ne vois pas ce qui pourrait intéresser le lecteur dans le fait que ma table de travail se situe côté rivière ou côté rue. Alors la merveilleuse et dernière chronique de Serge Bouchard dans Québec Science, juin 2018, Le Dernier Voyage. Merci.
Merci beaucoup pour ce magnifique texte, Francine Forget. Très touchant.
Émouvant. Oui, oui c'est émouvant. Ça. Oui, oui.
Eh bien, merci beaucoup. Moi, je vais poursuivre avec un texte dans l'actualité de David Desjardins, paru en avril 2018. Et ça s'intitule « Le rire franc ». Et ce texte suit bien l'annonce que le festival Juste pour rire va poursuivre ses activités. Alors, Et c'est une réflexion sur le rire. Le problème avec la satire aujourd'hui, c'est qu'elle est devenue un refuge et une fin en soi. On se moque pour se moquer. La cible n'est plus très claire. C'est un humour qui ne dérange plus autant qu'il réconforte. J'aime la satire. J'adore qu'elle procède sournoisement et permette aux idées de pénétrer nos esprits en empruntant le chemin facile de la recherche du plaisir par le rire. Mais il faut bien constater qu'elle est désormais prise en otage par quelques esprits retors. Pourquoi fait-on rire et surtout, à quel prix? Dans le Bourche de George Carlin de RBO ou celle de Yvon Deschamps, la satire était une affaire hautement politique. Parfois vulgaire, obscène, dérangeante, elle cherchait à ébranler les certitudes, à démonter les préjugés, à mettre l'auditoire face à ses travers. Son moteur? Faire avancer le monde, quitte à lui botter le cul de temps à autre pour le pousser en direction du bon côté de l'histoire. Le problème avec la satire aujourd'hui, c'est qu'elle est devenue un refuge et une fin en soi. On se moque pour se moquer, la cible n'étant plus très claire. Dans un excellent épisode de son balado « Revisionist History », l'auteur à succès Malcolm Gladwell affirme justement que la satire occidentale est disloquée, qu'elle ne sert plus à dénoncer parce qu'elle joue sur les deux tableaux. Il prend pour preuve une étude faite sur le Colbert Report, une émission américaine, qu'incarnait un animateur de droite caricatural au possible qui faisait se bidonner la gauche, mais aussi l'auditoire biberonné de Fox News, qui voyait toujours un fond de vérité dans le discours braqué du personnage. Et au final, tout le monde était reconduit dans le confort de ses ornières. Au point qu'on pouvait se demander si Colbert ne faisait pas un peu exprès d'entretenir le flou au profit de ses codes d'écoute. Et pourquoi pas? On a reproché la même chose à M. Guy Nantel, qui dans son plus récent spectacle joue un personnage dont on peine à deviner si c'est l'humoriste ou son double qui parle lorsqu'il se moque d'une prostituée qui porte plainte pour viol. Entre autres propos outrageux, si bien que le malaise n'est plus du bon côté. Il n'est plus chez celui qui devrait recevoir la blague et rire jaune, mais plutôt chez celles et ceux qui entendent les applaudissements francs et soutenus dans cette part de la foule qui ne saisit pas le sarcasme et s'y trouve conforté dans ses préjugés. Nantel prétend qu'il ne veut pas dire au public ce qu'il devrait penser. Mais selon Savard, c'est en laissant planer le doute sur ses intentions que Nantel remplit ses salles. On pourrait en dire tout autant des chroniqueurs qui écrivent des ignominies puis se défendent ensuite en disant avoir donné dans l'ironie. Trop tard, le mal étant fait. Quelques semaines plus tard, le chroniqueur n'en démarre pas. Quand tu riais des blagues d'Yvon Deschamps, en les prenant au pied de la lettre, t'avais l'air d'un cave, mais pas avec Nantel. Et c'est ça le problème. Comme humoriste, t'as la responsabilité de te demander ce qui reste dans la tête des gens à la fin du spectacle. Est-ce que j'ai encouragé l'intolérance? Est-ce que j'ai encouragé le racisme? Et puis, il y a ceux qui possèdent assez de talent pour habilement négocier leur parcours dans la tête du public afin d'atteindre leur cible. Dans son dernier spectacle, Louis-José Houde réussit l'exploit de faire de la politique sans en avoir l'air. Il balance un feu roulant de petits récits autobiographiques qui, étonnamment, nous habitent encore des jours après le spectacle. Ici, un commentaire sur le racisme, là, des propos sur l'homophobie, puis un autre sur l'environnement. Une série d'observations sur le vivre ensemble allant de l'intime au collectif. Cela, sans jamais pontifier, en évitant scrupuleusement de choquer pour le plaisir. Et c'est ainsi que l'humoriste le plus populaire du Québec montre qu'on peut afficher son parti pris sans l'écraser au visage de son public, en faisant rire celui-ci pour des bonnes raisons, en le ramenant doucement lorsqu'on le sent s'éloigner du côté sombre du rire, mais cela nécessite un doigté que bien peu possèdent. Malcolm Gladwell dit que c'est aussi une affaire de courage. Il faut choisir son camp et défendre une position claire pour que la satire conserve ce goût amer qu'il a défini. Sinon, elle ne sert que de sauve-conduit aux profiteurs, à ceux qui se drapent dans l'humour afin de servir leurs propres intérêts et au péril du climat social. Et ça, ce n'est pas qu'une question de talent ni de courage, c'est une affaire d'honnêteté. C'est donc un excellent texte de David Desjardins, paru dans l'actualité le 13 avril 2018. Merci, nous sommes de retour. Alors, Francine Forget va continuer de nous séduire avec ses choix de textes.
La science à la sauce Facebook. Alors, c'est la chronique de Catherine Matisse, la chronique Technopop dans Québec Science, juin 2018. Facebook, il ne sert pas juste à montrer des photos de chats et de bébés. Pour beaucoup d'abonnés, c'est également une source importante d'informations à saveur scientifique. Les pages plus populaires incluent celles des médias traditionnels, comme National Geographic, 46 millions d'abonnés, mais aussi celles de médias nés sur le web, comme I Fucking Love Science, près de 26 millions d'adeptes, et de personnalités publiques, comme le vidéaste Hakim Al-Ghali, 8,4 millions d'abonnés, ou le regretté Stephen Hawking, 3,9 millions d'abonnés. Le Pew Research Center a voulu mieux comprendre cet engouement. Pendant 6 mois, il a analysé 30 pages Facebook liées à la science, seules comptant parmi les plus suivies. Alors, Facebook est-il une bonne source d'information pour nourrir l'esprit scientifique? Oui et non. Les pages de science les plus populaires ont bien compris les rouages de ce média social et produisent davantage de statuts visuels avec peu ou pas de texte. Le rapport note aussi que seulement 3 messages sur 10 portent sur de nouvelles découvertes et 2 messages sur 10 concernent de nouvelles pratiques. On est toujours curieux de savoir si on possède les traits de personnalité d'un psychopathe, par exemple. Ainsi, ce n'est pas parce que la page se dit scientifique qu'on y trouve de la véritable science. 4 des 15 statuts les plus populaires sur des pages Facebook personnelles ou organisationnelles proposaient des conseils ou des citations inspirantes. Prenez soin de vos amis ou encore croyez en vous-même. À ce stade, peut-on encore parler de science? Néanmoins, ces données aident à comprendre comment le public trouve son information scientifique en ligne et rappellent l'importance de diversifier ses sources pour avoir un portrait plus complet et surtout plus crédible de la science. Si les citations inspirantes se partagent bien, elles n'aident en rien la formation d'une pensée critique en la matière. Twitter n'est pas en reste. C'est le réseau préféré de certains médias et personnalités scientifiques. C'est le cas, entre autres, de la NASA et Popular Science, qui aiment bien gazouiller. Bref, le buffet scientifique est ouvert un peu partout sur le web, mais il revient à nous de consommer de façon équilibrée, nous rappelle Catherine Matisse, je m'excuse, dans Québec Science, juin 2018. Et bien voilà, avant de terminer, j'ai un court texte qui est paru dans le Journal de Montréal, un texte de Caroline Lepage, qui rend, elle a rencontré un photoreporter qui rend hommage à la sensualité chez les aînés. Cette photographe veut donc montrer que la beauté n'est pas seulement exclusive aux jeunes. À Actonville, c'est là que ça se passe. Une artiste donc photographie des femmes d'âge mûr, nues ou en tenue sexy, pour prouver que la beauté n'est pas exclusive aux jeunes de 20 ans. La photoreporter s'appelle Ariane Clément. Elle prépare cet été une exposition à Upton, en Montérégie, qui mettra en vedette des femmes de 70 ans et plus. Ariane Clément adore mettre en valeur la beauté et la richesse des aînés du monde entier grâce à ses photos et ses reportages. Au nom de la diversité, elle défie les standards de beauté et veut prouver que la sensualité du corps humain n'a pas d'âge. La séduction et la sexualité, c'est pas juste l'affaire des femmes de 20 ans, dit cette artiste de 37 ans. Elle est détentrice d'une maîtrise en photojournalisme et elle recherche actuellement des modèles pour cette série coquine qui s'inspire de l'art du boudoir. D'ailleurs, les hommes sont aussi bienvenus. Ici, nous avons Marie-Berthe Paquette, 102 ans, qui a osé l'expérience et qui ne l'a pas regrettée. Elle a osé se faire photographier, j'ai la photo ici devant moi, en jupon. C'est très joli. Et depuis ce temps, elle est devenue la coqueluche de son CHSLD. Toutes les femmes se préoccupent. Excusez-moi. Toutes les femmes, elles ont besoin de se sentir. Je suis désolée.
On lâche pas, Hélène. On lâche pas.
Elles ont besoin. Non, mais la photo est très belle. Elles ont donc besoin de se sentir belles. Et c'est ce que cette photo-reporter tente à faire. C'est une. Pardon, investie d'une mission de valorisation des personnes âgées, elle compte bien visiter les zones bleues de la planète reconnues scientifiquement pour abriter les aînés qui vivent le plus longtemps. Après son séjour estival en Sardaigne, en Italie, la photographe se rendra donc au cours de la prochaine année au Costa Rica, en Californie, au Japon et en Grèce, toujours pour connaître les secrets de longévité et le bonheur des gens âgés de 90 ans et plus. C'est un très beau texte de Caroline Laporte et surtout un très beau travail de cette photo-reporter, Ariane Clément. À suivre, dès que j'ai d'autres nouvelles, je vous en reparle. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à notre écoute. Merci beaucoup, Francine.
Ça m'a fait plaisir. C'est vraiment touchant, le dernier texte. C'est une très belle expérience. Hein?
Absolument. Mm-hmm. C'est très beau. Merci, Mathieu Tessier, pour nous avoir bien supportés à la régie, malgré nos fous rires. Merci beaucoup. Alors, nous vous souhaitons une belle semaine. Souhaitons aussi de vous retrouver vendredi prochain. Mes deux collaboratrices y seront. Moi, j'y serai pas. Alors, Catherine Emmanuel, voyons, Mathilde.